Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vous emmène à New York, figurez-vous. Deux cobras de trop par Raymond Lee Dithmars. Un matin, je reçus en ma qualité de directeur du jardin zoologique de New York l'appel d'un de ces marchands d'animaux dont les boutiques, vétustes et laides, sont grâce au ciel en voie de disparition. L'homme était au comble de l'émoi et demandait que l'on fît vite. Deux de ces cobras royaux s'étaient éclipsés. Notre intention était depuis longtemps d'acheter un couple de cobras royaux, mais je ne tenais pas à les capturer moi-même. Je partis cependant avec un des gardiens. Nous avions emporté un grand sac, deux autres plus petits, très solides, et un bâton muni d'un nœud coulant à l'une des extrémités. Le cobra royal est indiscutablement le plus grand et le plus agile de tous les serpents venimeux. Il atteint jusqu'à 5 mètres et il est souple comme un long fouet. Sa force et son venin font de lui le plus redoutable des reptiles. En outre, son intelligence est vive et il est habitué à suivre et à attaquer l'homme en déployant tout un éventail de ruses. Il est originaire de l'Inde et de Malaisie, et heureusement, il est assez rare. Nous trouvâmes le marchand au comble du désespoir. Une cargaison d'oiseaux venait d'arriver, et parmi les cages, il y en avait une grande en bois de teck, dont le couvercle était percé de plusieurs trous. L'homme avait traîné la caisse dans la pièce où, d'ordinaire, il ouvrait les cages. Puis il avait voulu déclouer le couvercle, pensant y voir un serpent python qu'il allait mettre dans la cage aux reptiles. Il s'attendait à trouver un serpent de 4 à 5 mètres de long, aveuglé par l'entrée soudaine de la lumière du jour et presque incapable de bouger. Deux hommes étaient prêts à saisir la tête et la queue et à mettre l'animal en sûreté. Il fractura le couvercle et fut un instant tout surpris de constater que la caisse était presque vide. Lui qui s'attendait à voir les volumineux anneaux du python indien. Le poids de la caisse l'avait induit en erreur, car le bois de teck est très lourd. Il aperçut, terrifié, les nombreux anneaux d'un bleu vert à peine plus gros que son poignet. Au premier instant d'effroi, comme il levait le marteau qu'il tenait encore à la main, une tête de couleur orange aux yeux de feu surgit toute droite. Le marchand recula vers la porte. Alors le cobra se dressa presque à hauteur d'homme et le regarda sans la moindre peur. Le bonhomme franchit la porte en toute hâte, marchant sur les pieds du gardien qui venait l'aider. Tous deux s'enfuirent en trébuchant le long du couloir obscur. L'homme avait eu juste le temps, en fermant la porte, de voir un deuxième cobra se dresser à côté de l'autre. On eût dit deux candélabres géants qui auraient lancé de mauvais regards. Je ne connais que trop cet étrange regard des cobras royaux. C'est une curieuse lueur qui ne jette pas de rayons, mais qui clignote sans cesse. Un œil pénétrant qui cherche à comprendre et à prévoir les mouvements de l'adversaire. La couleur des yeux est la plupart du temps la même que celle de la gorge et de la tête, d'un jaune rouge comme une écorce d'orange. La tête du serpent ressort nettement sur le vert olive pâle du corps. Le marchand tremblait de peur car les reptiles pouvaient s'échapper. Les deux fenêtres de la pièce étaient, il est vrai, garnies d'un grillage fin mais résistant, car on y mettait souvent de gros oiseaux en cage. La vaste salle était encombrée de vieilleries, caisses brisées, couvercles et autres déchets accumulés en une haute pile. Il y avait des rats dans ce bâtiment vétuste et depuis des années, on n'avait pas regardé l'état du parquet sous ce bric-à-brac. Le marchand craignait que les rongeurs n'y aient fait leur nid et qu'en suivant leur galerie, les cobras ne gagnent l'étage inférieur, le magasin et ensuite la ville. À cette pensée, il se tordait les bras et me suppliait d'agir au plus vite. Je dois avouer que je n'avais guère envie d'inspecter la pièce. Thank you. montâmes à l'étage supérieur, le marchand tira la clé de sa poche et ouvrit la porte. Mais tandis que nous regardions à l'intérieur, il se retira bien vite. On ne voyait rien. Heureusement qu'à côté de l'entrée, le sol n'était pas tout à fait débarrassé. La porte qui s'ouvrait en dedans restait entrebâillée. Je la refermai aussitôt pour gagner de la place. Par terre se trouvait un gros morceau de bois qui pouvait fort bien servir d'arme. Son extrémité était recourbée. Nous avions en outre les sacs et le bâton au nœud coulant. C'est alors que nous entreprîmes une minutieuse inspection et que nous aperçûmes, après avoir remué tout doucement plusieurs caisses, le premier serpent. Une bande verdâtre au milieu de tout le bric-à-brac. Le cobra dormait, mais je savais très bien ce qu'il ferait si je le touchais. Il surgirait, dressé, hors de sa cachette, prendrait la position de combat et, sans nul doute, viendrait droit à nous. Je savais cependant comment nous pourrions venir à bout d'une seule de ces bêtes. Mais que faire pour les capturer toutes les deux? Je ne le voyais pas très bien. Passez derrière moi et ouvrez la porte pour que nous ayons une issue de secours. Je vais le prendre, dis-je au gardien à voix basse. Il saisit la poignée, mais la porte était fermée à clé. Je ne pus réprimer qu'à grand-peine ma colère contre ce capon de marchand. Je grinçais des dents et je frappai tout doucement à la porte. Pas de réponse. Sans doute le marchand était-il blotti dans l'escalier. Nous voilà dans de beaux draps. Impossible sans doute d'enfoncer la lourde porte et les fenêtres étaient fermées par un grillage. Je donnai l'ordre à mon compagnon de frapper de toutes ses forces pour mettre le cobra hors de combat, dès qu'il ferait mine de nous attaquer. Et comme il n'y avait rien d'autre à tenter, j'avançai mon bâton à côté de la bestiole. Au même instant, on entendit un sifflement sourd, comme un éternuement étouffé, que je connaissais bien pour être celui du cobra vulgaire de l'Inde, et déjà le serpent, qui s'était avancé, nous regardait fixement. Son cou se gonflait, présentant à peu près la forme d'un écusson, long et étroit, tacheté de noir et blanc. La lente enflure de cet écusson était de bon augure. Le serpent oscillait entre la colère et la surprise. Je savais que c'était l'instant décisif de la capture. Si nous manquions le coup avec le nœud coulant, l'un de nous serait mort. À moins que ce soit le cobra. Mon compagnon balança lentement son bâton tandis que je m'approchais avec le nœud coulant. Le serpent tourna légèrement la tête, sans faire d'autre mouvement. Un geste latéral resserra le nœud. Nous le lançâmes, et la corde vint se placer à quelques centimètres de la tête, juste autour de l'écusson. En de furieuses et terrifiantes convulsions, le long corps du reptile émergea dessous les caisses. Il mesurait dans les 4 mètres. Rageur, il mordait le bâton de plus en plus profondément. Dès que mon aide fut parvenue à lui glisser le bâton sous la tête, j'empoignai le monstre par le cou. Ce n'est pas aussi dangereux que cela pourrait paraître, il n'y a qu'à connaître le tour de main. Pendant ce temps-là, le cobra bouleversait tout dans la pièce. Les caisses volaient de droite et de gauche, sous les coups qu'il portait sauvagement de toute la longueur de son corps. J'attirai la tête du reptile dans un coin. Mon compagnon amena le sac et s'efforça d'y faire entrer le bout de la queue. Nous allions réussir à rendre inoffensif le premier cobra lorsque le second sortit soudain de sa cachette. Un seul coup d'œil suffit parfois pour remarquer les moindres détails d'une scène. Je me rappelle que les taches de son cou différaient de celles de l'autre bête, et je compris d'emblée que c'était la femelle. Ce serpent se dressa hors de la caisse, émergeant 1 mètre environ, et telle la déesse de la vengeance, elle nous jeta de funestes regards. « À l'autre, à présent !» m'écriai-je, en serrant le premier serpent dans le sac qui l'enfermait. Sous les efforts qu'il faisait pour dégager sa tête, il s'enfonçait toujours plus à l'intérieur. Je saisis le bord du sac, attendant que la tête retombe en arrière, et je ne m'en occupais plus. Il y avait 50 chances sur 100 pour qu'il sortît comme une fusée. Mais ce ne fut point le cas, et nous n'y fûmes plus attention. D'une main, on peut tenir ouvert un de ces sacs-là, et de l'autre main, le fermer. Mais très vite, et en tournant. Alors le serpent est pris. Il y avait des années que j'avais appris et ensuite enseigné cette méthode de capture à tous les gardiens de la division des reptiles du jardin zoologique. Nous venions donc de capturer Sa Majesté avec un tour de passe-passe et de gagner ainsi 2 à 3 minutes de répit avant qu'elle puisse sortir la tête de ses anneaux. Au même instant, un tapage infernal retentit à côté de moi. Mon aide s'efforçait de maintenir à plat, par terre, la tête et le cou du second serpent. Il me fallait me préparer à brandir le bâton muni du nœud coulant. Le cobra se libéra et vint sur nous, mais nous manqua. Pour éviter son attaque, il nous avait fallu presque escalader les murs. À présent, c'était le duel à mort entre lui et nous. Pour y mettre fin, je m'apprêtais déjà à tuer l'animal, lorsque d'un geste adroit, moitié poussant, moitié frappant, le gardien serra le cou du cobra contre le couvercle d'une caisse posée de biais. La caisse était suffisamment calée. Je passai le nœud coulant autour de la tête du serpent et la maintins de toutes mes forces, tandis que son corps souple se débattait. « Je le tiens, prenez-le par la tête » m'écriai-je, et déjà mon homme était là armé d'un bâton. Aussitôt, le cobra fut en notre pouvoir. Nous le tenions ferme par le cou, comme le premier. Mon aide le pressait du bâton et des genoux et le maintenait contre le sol comme par un ressort, le serrant d'une main, l'autre tendu vers lui. Pendant qu'il maintenait la bête de ses deux mains, étant presque assis sur elle, je fermais le premier sac. Alors que nous livrions bataille au second cobra, le premier s'était dressé et comme frappé d'ivresse, il se balançait de droite et de gauche. Nous enfermâmes le numéro 2 dans son sac. Affaire d'adresse, moins scabreuse pourtant du fait que nous ne risquions plus rien de l'autre côté. Après avoir été chercher dans la chambre le morceau de bois le plus lourd, nous enfonçâmes la porte. Nous pouvions maintenant laisser libre cours à notre vindicte, et tout le tapage que nous faisions nous réjouissait fort. Seul le cadre de la porte résistait encore quand le marchand l'ouvrit et parut sur le seuil. Un seul coup d'œil suffit pour nous faire revenir à de meilleurs sentiments. L'homme était d'une pâleur de mort, le visage mouillé de sueur. Il nous questionna en tremblant et je lui appris que nous avions capturé les deux cobras. Nous ne sommes pas prêts d'oublier cette aventure. Moi non plus, j'avoue. Et je remercie Roland à la technique qui va avoir du travail pour couper les bafouilles tellement l'aventure m'a donné froid dans le dos. Bon. Heureusement, c'est qu'une histoire. Je vous dis au revoir et puis à la prochaine fois, je vais essayer de me remettre de ces aventures-là. Thank you.